France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Sortira pas, seule certitude au Brésil. Un arrêt rendu hier par la Cour suprême rend désormais théoriquement possible la libération de l'ex-président Lula, incarcéré depuis plus d'un an et demi pour corruption.
À Hong Kong, l'annonce ce matin de la mort d'un étudiant grièvement blessé le week-end dernier a aussitôt suscité une nouvelle vague d'indignation au sein du mouvement pro-démocratie et laisse craindre à présent de nouvelles violences.
Au lendemain de la publication dans l'hebdomadaire britannique The Economist de l'interview d'Emmanuel Macron déplorant le manque de coordination entre les États-Unis et l'Europe, le chef de l'État s'est rapidement attiré les critiques de Washington et de Berlin qui tous deux jugent le partenariat stratégique de l'OTAN incontournable. À 5 mois des élections municipales en France, le chef de file des sénateurs LR a déposé ce matin une proposition de loi objectif interdire les listes communautaires. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, Philippe Moati, professeur d'économie à l'université Paris Diderot, coprésident de l'Observatoire Société et Consommation. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Vers un nouvel âge d'or de la vie intellectuelle française, nous poserons la question à notre invité, le journaliste Jean-Marie Durand. Il s'est longtemps occupé des pages idées du magazine de l'hebdo culturel Les Inrocuptibles. Il signe aujourd'hui un livre à la découverte, Homo Intellectus, une enquête hexagonale sur une espèce qu'on dit en voie de disparition et qu'il voit plutôt en voie de réinvention.
Merci et à tout à l'heure. Incarcéré depuis plus d'un an et demi donc pour corruption, l'ex-président brésilien Lula va-t-il être libéré? Seule certitude, jamais la figure historique de la gauche n'aura semblé aussi proche de la sortie. Après que la Cour suprême a mis fin hier soir à une jurisprudence selon laquelle une personne pouvait être emprisonnée avant même l'épuisement de tous ses recours dès lors que sa condamnation en appel avait été confirmée. Or Lula, qui purge une peine de 8 ans et 10 mois de réclusion pour corruption, a lui été incarcéré en avril 2018, peu après sa condamnation en appel, alors même qu'il disposait encore de recours devant des tribunaux supérieurs. Et voilà pourquoi, théoriquement, cette décision devrait donc permettre sa libération, théoriquement seulement, car celle-ci ne saurait être automatique, chaque juge d'application des peines étant tenu d'appliquer la décision de la Cour suprême au cas par cas. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors cet arrêt de la Cour suprême a aussitôt été salué, notamment par la présidente du Parti des Travailleurs, fondée par Lula. À l'inverse, et comme attendu, le camp du président Bolsonaro, lui, déplorait cette décision de la plus haute juridiction du pays. Et pour cause, puisque dans l'hypothèse donc où Lula parviendrait à être libéré, cela pourrait, Louise, totalement rebattre les cartes politiques au Brésil.
Effectivement, ce serait un véritable tremblement de terre à un an des prochaines municipales. Scrutin test pour Jair Bolsonaro, le premier depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier. Sa victoire a tétanisé l'opposition de gauche, inaudible depuis et en manque de leader. Et justement, Lula conserve, lui, des millions de sympathisants, notamment dans le nord-est du pays, où la décision des juges du tribunal suprême a été fêté dans l'euphorie jusque tard dans la nuit. Lula, dont le sort polarise fortement la société brésilienne, favori des sondages il y a un an, il a assisté impuissant à la victoire de Jair Bolsonaro, mais il n'a pas renoncé au combat politique, donnant depuis sa prison des interviews dans la presse internationale, notamment au Monde il y a 2 mois, discret toutefois sur ses intentions, pendant que ses partisans le poussent à prendre la tête de l'opposition.
Alors, sauf qu'attention, Lula n'est évidemment pas encore libéré, et surtout, Louise, il est loin d'être innocenté.
Eh oui, l'ex-président condamné à plusieurs reprises pour corruption et blanchiment d'argent. D'abord pour avoir bénéficié d'un triplex dans une station balnéaire en échange de contrats accordés à une entreprise du BTP et puis pour des travaux effectués contre faveur dans une propriété rurale. Élément du gigantesque dossier Lavage Jato, Lavage Express, enquête fleuve centrée sur des pots de vin versés à des politiques et cadres d'entreprises nationales. Enquête longtemps très populaire au Brésil, mais de récentes révélations ont mis au jour des irrégularités dans la procédure judiciaire qui a frappé Lula, alimentant le soupçon d'une justice instrumentalisée pour le faire chuter. L'impartialité du premier juge qui l'a fait condamner, Sergio Moro, est en cause. Sergio Moro, aujourd'hui ministre de la justice de Jair Bolsonaro, la décision du tribunal suprême est pour lui un revers personnel.
Merci Louise Baudet. Décidément, pas un jour ne se passe sans qu'il fasse parler de lui. Donald Trump a été condamné hier par une juge de la Cour suprême de l'État de New York à verser 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir utilisé la fondation qui porte son nom comme instrument politique. Le locataire de la Maison Blanche a admis avoir utilisé de manière personnelle les fonds de sa fondation dissoute l'an dernier. Plus exactement, le président américain a indiqué sur Twitter que cet organisme philanthropique incroyablement efficace avait commis quelques petites violations technique. Pendant ce temps, le défilé des témoins au Congrès dans l'affaire ukrainienne qui vote au président d'être visé par une procédure de destitution continue d'entacher la campagne de réélection de l'ex-magnat de l'immobilier. Dans un témoignage rendu public hier, un diplomate américain a confirmé aux élus que l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, avait bien mené pendant des mois une campagne pour demander à Kiev d'enquêter sur Joe Biden. Aujourd'hui, le Congrès espère entendre le chef de cabinet du président. Plusieurs manifestants pro-démocratie hongkongais ont appelé à des veillées funèbres à travers tout le territoire ce soir après l'annonce ce matin du décès d'un étudiant de 22 ans tombé le week-end dernier d'un parking à étage lors d'affrontements entre la police et les manifestants. Les circonstances de sa chute ne sont toujours pas claires et font d'ailleurs l'objet de controverses. Quoi qu'il en soit, et après 22 week-ends de manifestations, eh bien la mobilisation qui dégénère de plus en plus souvent en heurts violents avec les forces de l'ordre ne semble pas marquer le pas. Les précisions depuis Pékin de Dominique André.
Alex Cho est le premier étudiant à perdre la vie depuis le début des manifestations à Hong Kong il y a 5 mois. Le jeune homme était étudiant à l'Université des sciences et technologies. L'annonce de son décès a été faite par le directeur en pleine séance de remise des diplômes ce matin. Une minute de silence a été organisée à la mémoire de l'étudiant. Alex Cho avait été conduit à l'hôpital lundi matin très tôt, inconscient, après les manifestations du week-end. Les médecins l'ont opéré 2 fois pour tenter de réduire l'hématome qui s'était formé dans son cerveau. Le décès du jeune homme est-il dû à une chute accidentelle d'un étage du parking où la police intervenait avec des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants? Cette nouvelle tragique mobilise les jeunes qui attribuent le décès aux méthodes de la police et conteste sa version. Sur les réseaux sociaux, un appel pour une marche est lancé et la population est invitée à venir avec des bougies pour participer à des veillées ce soir à travers tout le territoire de Hong Kong. Joshua Wong, l'une des figures du mouvement pro-démocratie, publie ce message sur son compte Twitter. « Nous pleurons la perte d'un combattant de la liberté à Hong Kong. Le gouvernement doit en payer le prix. » Le gouvernement de Hong Kong vient d'exprimer sa grande tristesse et ses regrets. Arrêter la violence, mettre fin au désordre, rétablir l'ordre est la tâche la plus urgente de Hong Kong, déclare pour sa part le gouvernement central à Pékin.
Dénoncer un état militaire en Algérie, comme le font les manifestants anti-régime avec le slogan « État civil, pas militaire » ne repose sur aucune réalité et pis encore, il vise uniquement à détruire les fondements de l'État. L'accusation est signée du chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah, lequel s'exprimait hier lors d'un colloque. Il faut dire que depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, celui qui apparaît au grand jour comme l'homme fort du pays au détriment de l'effacé président par intérim, Ben Salah se retrouve régulièrement conspué par les manifestants. Lesquels devraient d'ailleurs à nouveau le faire savoir haut et fort en ce nouveau vendredi de mobilisation. Même si le Koweït est secoué depuis plus de 10 ans maintenant par des crises politiques à répétition, la mobilisation mercredi soir devant le Parlement de milliers de manifestants contre la corruption au sein des institutions n'en constitue pas moins le dernier exemple en date donc de cette flambée des mouvements de contestation populaire dans la région. Les manifestations qui ont éclaté en Irak le 1er octobre dernier et celles qui ont émergé au Liban 16 jours plus tard partagent toutes les mêmes griefs autour d'une corruption endémique. À cette différence près toutefois qu'au-delà de la dénonciation de systèmes corrompus, les manifestations qui ont lieu en Irak et au Liban ciblent aussi l'ingérence proéminente de l'Iran au sein de leurs frontières. En Égypte, là-bas, si les manifestations qui ont secoué le pays fin septembre avaient fait naître l'espoir de voir bientôt tous les prisonniers politiques libérés, les centaines d'arrestations qui ont suivi ont vite fait de souffler sur cette lueur d'optimisme. Arrêté le 5 juillet dernier, Rami Shaat, l'un des visages emblématiques de la situation aujourd'hui en Égypte, est d'ailleurs lui toujours détenu arbitrairement dans une prison du Caire. Depuis 4 mois maintenant, ses proches réclament en vain sa libération. Les explications de Valérie Crova.
Quand des agents de sécurité sont venus arrêter Rami Shaat en pleine nuit le 5 juillet dernier, sa femme, Céline, a assisté impuissante à la scène. Fils d'un conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas, Rami Shaat n'est pas homme à se taire. Cet activiste avait dénoncé la participation d'un responsable égyptien à la conférence de Bahreïn fin juin. C'est au cours de cette conférence que les États-Unis ont présenté le volet économique du fameux deal du siècle, censé mettre fin au conflit israélo-palestinien, mais sans tenir compte des aspirations palestiniennes à la création d'un État. Céline Lebrun-Chahat, de nationalité française, a été expulsée d'Égypte après l'arrestation de son mari. C'est un prisonnier de conscience, dit-elle.
Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, comme à beaucoup d'autres, c'est tout simplement de s'opposer à la politique des autorités égyptiennes. Les accusations qui sont formulées depuis des années maintenant à l'encontre des militants politiques ou des défenseurs des droits humains, c'est une supposée assistance à un groupe terroriste. La peine encourue est de 5 ans.
4 mois après son arrestation, Rami Chahat n'a toujours pas vu de juge. Il y aurait aujourd'hui 60 000 prisonniers politiques dans les geôles égyptiennes.
Et je précise que Rami Chahat a été choisi cette année pour être le parrain par procuration donc de la 10e édition du festival Cinémas et Droits Humains organisé par Amnesty International et qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche à Paris. Même en bras de chemise, l'air décontracté, presque avachi, ils conservent le regard inquiet et on le serait à moins pour preuve. La citation qui accompagne la photo d'Emmanuel Macron à une de The Economist, au bord du précipice, a de quoi donner le vertige. Alors précisons tout de suite que ça n'est pas pour autant le président français lui-même qui se retrouve ainsi seul au bord de l'abîme, mais l'Europe tout entière. Dans cette longue interview, le chef de l'État souligne en effet la fragilité extraordinaire de l'Europe qu'il attribue notamment au Brexit, mais aussi à l'instabilité politique de l'Union avant de prévenir si elle ne se repense pas comme une puissance géopolitique dans ce monde, elle pourrait disparaître. Un tableau incroyablement sombre donc pour un Européen autoproclamé, lequel va même jusqu'à dénoncer la mort cérébrale de l'OTAN. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors c'est peu de dire qu'en jetant ce pavé dans la mare, Emmanuel Macron a choqué, et tout particulièrement Bertrand en Allemagne où la chancelière a tenu à réagir dès hier.
Angela Merkel, qui ne partage pas la vision qualifiée de radicale d'Emmanuel Macron sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN, je ne pense pas qu'un tel jugement intempestif soit nécessaire, dit la chancelière, même si nous devons nous ressaisir. La dirigeante allemande ajoute que l'Alliance Atlantique demeure la pierre angulaire de la sécurité européenne. Un commentaire fait hier à Berlin lors d'une conférence de presse commune avec le secrétaire général de l'OTAN. Il était donc difficile pour Angela Merkel d'emboîter le pas à Emmanuel Macron et de critiquer ouvertement l'Alliance Atlantique en présence de Jens Stoltenberg. Mais les circonstances n'expliquent pas tout. Si Angela Merkel ménage l'OTAN, c'est d'abord parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance, faute de solution alternative. Malgré le désengagement annoncé des États-Unis en Europe et malgré les inquiétudes liées à la présence de la Turquie au sein de l'Alliance, alors que 3 millions de Turcs vivent en Allemagne. La réalité, c'est que sans l'OTAN, Berlin n'aurait pas du tout les moyens d'assurer la défense du pays. Le manque de crédit alloué à la Bundeswehr est régulièrement pointé du doigt par une partie de l'opposition. L'objectif est d'augmenter les effectifs de 14 000 hommes d'ici 2025 pour atteindre 186 000 soldats, ce qui reste insuffisant, et le matériel fait défaut. Les rapports parlementaires pointent des avions de transport A400M cloués au sol, des sous-marins en maintenance et une partie des chars Léopard inutilisables. En visite à Leipzig, le secrétaire américain Mike Pompeo rappelle que Donald Trump a demandé un meilleur partage du financement de l'OTAN. L'Allemagne n'en prend pas le chemin, qui prévoit dès 2022 un recul des dépenses militaires par rapport à son produit intérieur brut.
Merci Bertrand Galichet. À quelques jours d'élections cruciales dominées par la question du Brexit, la bataille continue de faire rage entre les principaux partis britanniques. Depuis le début de la semaine, les polémiques se succèdent autour de pratiques du parti conservateur et des libéraux démocrates, à grand renfort de vidéos tronquées pour les uns et de sondages bidons pour les autres. Les deux formations sont accusées d'avoir sciemment trompé les électeurs. En Roumanie, 30 ans après cette libéré du communisme, le pays a lui toujours envie d'Europe et il devrait le faire savoir dimanche à l'occasion d'une élection présidentielle où les postures souverainistes et nationalistes ne font pas recette selon toute vraisemblance. C'est donc le président sortant de centre droit, inlassable avocat des valeurs européennes, qui devrait arriver largement en tête du premier tour. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, l'assure, il n'y a pas de divergence à l'intérieur du gouvernement sur la réforme des retraites. Et pourtant, c'est peu de dire que les déclarations contradictoires de ces derniers jours permettent sérieusement d'en douter. Quand mercredi soir, Édouard Philippe indiquait que son gouvernement avait ouvert toutes les pistes, y compris celle du recours à la clause dite du grand-père, qui permettrait d'appliquer le nouveau régime universel de retraite aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail, et bien voilà que dès le lendemain, le haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, jugeait lui au contraire qu'il serait impossible de réserver le nouveau régime aux seuls nouveaux entrants. Enfin, ultime péripétie, ce matin, c'est Emmanuel Macron en personne qui est venu repréciser les choses en réintégrant cette fois-ci le scénario d'apaisement avancé au sein de la majorité pour éviter un nouvel embrasement social. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Cet ultime recadrage donc du chef de l'État est évidemment, Stéphane, à remettre dans la perspective de la mobilisation du 5 décembre.
Oui. Tout est ouvert, ont indiqué en substance le président de la République et son premier ministre au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier et auquel ne participait pas Jean-Paul Delevoye. Recadrage en règle donc pour le haut commissaire aux retraites qui, dans une interview au journal Le Parisien le matin même, indiquait qu'il n'est pas question d'avoir recours à la clause dite du grand-père. Clause qui prévoit de réserver la réforme aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail, autrement dit de reporter l'application de cette réforme d'une quarantaine d'années. Le résultat est que Jean-Paul Delevoye fait machine arrière ce matin et indique qu'il se rangera derrière la décision du président, du premier ministre et du Parlement. Cette mise au point s'explique par la crainte qu'ont Emmanuel Macron et Édouard Philippe, vous le disiez, de ce que pourrait donner la grève prévue à partir du 5 décembre. Ils savent que le feu couve à la RATP et à la SNCF, que la colère qui s'est exprimée l'an dernier avec les gilets jaunes n'est pas éteinte et ils redoutent que la contestation fasse tache d'huile. Ce qui fait qu'Emmanuel Macron réserverait cette clause dite du grand-père comme sa dernière carte pour calmer les esprits au cas où ça tournerait mal, ce qui permettrait au moins symboliquement de sauver la réforme et de ne pas mettre en péril la fin du quinquennat. Car cette réforme des retraites est un peu la mère de toutes les réformes pour Emmanuel Macron. Elle symbolise sa volonté et sa capacité à réformer la société française. Elle ressemble un peu pour l'actuel chef de l'État à ce qu'a été pour son prédécesseur François Hollande la promesse d'inversion de la courbe du chômage, c'est-à-dire un franchissement incontournable avec à ce stade deux options pour Emmanuel Macron, soit ça passe, soit ça casse.
Merci Stéphane Robert. À 5 mois des élections municipales, le chef de file des sénateurs, les Républicains, Bruno Retailleau, a déposé une nouvelle proposition de loi ce matin. Objectif, interdire les listes communautaires. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors la question, on l'imagine, fait évidemment débat dans la classe politique et en particulier depuis les dernières élections européennes où l'Union des démocrates musulmans français avait enregistré, Pierre, des scores élevés dans certains bureaux de vote.
Notre modèle républicain est menacé, c'est le constat que dresse le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, et c'est pourquoi il dépose aujourd'hui une proposition de loi pour s'assurer du respect de la laïcité dans la vie politique.
Il faut mieux anticiper, rappeler les principes républicains dans la mesure où il y a l'islamisme, c'est-à-dire un islam politique, un islam qui considère que, en fait, la charia, la loi religieuse, est au-dessus de la loi civile, de la loi républicaine. Et j'ai fait cette proposition pour rappeler des principes républicains, pour mettre des digues dans la mesure où il y a une volonté, non seulement de conquête de lieux de culte, de quartiers, mais il y a aussi une volonté de conquérir par les urnes un certain nombre de territoires.
Alors, dans le détail, le président du groupe Les Républicains au Sénat veut interdire le financement des partis communautaires. Il souhaite également interdire les candidats et le matériel de propagande électorale qui comporterait un caractère communautaire, comme il veut étendre la neutralité religieuse aux élus à tous les moments de l'exercice du mandat électif. C'est un sujet sensible et déjà encadré par la Constitution, souligne Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui rappelait dès hier matin sur France Info toute la difficulté à légiférer en la matière.
Je ne sais pas ce que c'est une liste communautaire. Par contre, je sais ce que sont les comportements communautaires. Je sais ce que sont les mots communautaires. Je sais l'antisémitisme porté par certains, y compris dans leur expression politique. Et c'est cela que moi je condamne. Et c'est cela que je veux, dans la préparation des élections municipales, que les préfets puissent sanctionner de façon systématique.
Christophe Castaner qui recevra mardi prochain Bruno Retailleau et le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui dès le mois de septembre demandait au chef de l'État de prendre des dispositions législatives ou réglementaires pour interdire ces listes aux prochaines municipales. Cette proposition de loi ouvre un grand champ de réflexion pour les juristes et constitutionnalistes car en la matière, la loi garantit le libre exercice des cultes comme elle interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles de la République.
Merci Pierre Neveu. Depuis plus de 55 ans, on l'appelait Madame Céline Lucette Détouche, la veuve de l'écrivain qui avait voué toute sa vie à l'auteur du Voyage au bout de la nuit, s'est éteinte chez elle ce matin à l'âge de 107 ans. C'est un événement commercial qui nous vient des États-Unis, le Black Friday, des journées de promotion tous azimuts prévues pour démarrer en France le 29 novembre prochain. Or voilà que cette année, Plus de 200 marques ont d'ores et déjà décidé qu'elles boycotteraient cet événement, dénonçant notamment son coût à la fois social et environnemental. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, invité de la rédaction, Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université Paris Diderot et co-président de l'Observatoire Société et Consommation. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Brumet, bonjour.
Bonjour.
Une première question monsieur Moati, quand bien même ces quelques 200 marques réunies donc dans un collectif baptisé Make Friday Green Again ne constitue qu'une minorité, ce boycott est-il le reflet selon vous d'une tendance aujourd'hui sur nos habitudes de consommation, tendance à la non-surconsommation?
C'est manifestement une tendance montante mais qui ne concerne aujourd'hui qu'une petite fraction de la population, comment dire, sensibilisée aux questions environnementales et qui ont fait le lien entre nos modes de consommation et les enjeux environnementaux que nous avons à relever. Ce n'est pas encore le cas de la masse des Français, puisque nous venons de réaliser un petit sondage à l'approche du Black Friday. Et 57% des Français que nous avons interrogés nous disent qu'ils ont l'intention de réaliser des achats pendant le Black Friday. Donc on peut voir ici que la surconsommation, l'hyperconsommation se porte bien. On peut aussi y voir un phénomène assez rationnel, c'est de se dire que, étant donné la fréquence et l'importance des réductions tout au long de l'année, le Black Friday c'est un épisode parmi beaucoup d'autres, il est rationnel d'acheter à ces moments-là, parce que quand on achète à d'autres moments, on paye le prix fort, car évidemment les entreprises assurent une sorte de péréquation des prix pour restaurer leur rentabilité.
Alors,
c'est un événement qui arrive à un mois de Noël, hein, donc on peut comprendre que les Français sont intéressés. Néanmoins, dans le sondage que vous publiez, il y a aussi une prise de conscience des Français qu'ils surconsomment à ce moment-là précisément. Donc il y a une forme de schizophrénie en quelque sorte.
Ah, complètement. Donc 57% des Français nous disent avoir l'intention de faire des achats à cette occasion, mais 77% considèrent que c'est aussi une opération qui pousse à la surconsommation. Donc c'est en partie les mêmes, évidemment. Donc effectivement, on est tous un peu schizophrènes. Nous sommes quand même dans une société d'hyperconsommation où l'incitation à consommer est permanente et où la consommation remplit une sorte de vide existentiel. Donc faut pas sous-estimer l'importance que la consommation occupe. Mais par ailleurs, effectivement, on a pris conscience des effets délétères de cette consommation. Donc on est un peu tiraillé. Et puis je vous dis, en plus avec l'argument rationnel, on a quand même Noël qui arrive. Pour Noël, il convient de faire des cadeaux, c'est encore un usage, ça reste une norme sociale. Donc il va falloir faire des dépenses. On connaît le ressenti des Français sur leur pouvoir d'achat. Donc se dire que anticiper un petit peu les cadeaux et les faire à des moments où on peut avoir des prix plus attractifs, c'est un comportement somme toute rationnel.
Cela dit, si du coup on ces comportements d'achat de Noël, vous dites quand même, hein, j'ai lu quelque part dans une interview, que le concept de déconsommation est en marche. Alors ça s'exprime comment ?
Alors ça commence à se voir sur certains marchés. Peut-être le plus symptomatique, c'est le marché de l'habillement, qui est en recul depuis 15 ans. Il a perdu 15 points en 10 ans, et la dynamique de baisse a démarré déjà depuis une quinzaine d'années. On est saturé de vêtements. Nous sommes saturés de vêtements. La profession a fait ce qu'il fallait pour entretenir le désir de consommer. La fast fashion, donc la succession très rapide des collections, la surenchère promotionnelle. Il faut savoir que la moitié du chiffre d'affaires du secteur de l'habillement est fait au moment des soldes ou avec des promotions, donc avec des prix barrés. Donc on est dans une sorte de soutien artificiel d'un marché qui, malgré tout, continue de s'affaisser parce qu'en quelque sorte, les gens commencent à comprendre que arriver au degré d'opulence où nous sommes, continuer à consommer plus ne nous rend pas significativement plus heureux. Et comme par ailleurs, on a pris conscience des enjeux environnementaux de tout ça, notamment l'impact environnemental du textile qui est redoutable, on commence à revoir les priorités, peut-être plus de temps, moins d'argent, dans l'affectation du revenu, des dépenses qui ont plus de sens, qui nous renvoient de l'expérience, du vécu, qui nous fassent grandir. Donc une sorte de maturation très progressive des consommateurs.
Et les marques semblent l'avoir compris, puisque au-delà de ces marques qui boycottent le Black Friday, il y en a certaines qui proposent aujourd'hui des services, de la location, même pour les chaussures. C'est un phénomène que vous observez qui est en train de monter également.
Oui. Je crois que les acteurs de l'offre, y compris les grands, sont conscients qu'on arrive au bout d'un cycle. Les centres commerciaux perdent de la fréquentation depuis 10 ans. Les hypermarchés, on le sait, sont en crise. Donc, et les grandes marques de l'habillement, et même de l'alimentaire, commencent à sentir que ça frotte, ça marche de moins en moins bien, qu'il va falloir changer de modèle. Et donc, le nouveau modèle de consommation vers lequel il faut que nous tendions avions, ne serait-ce que pour faire face à l'enjeu environnemental, n'est pas écrit. Donc on est dans une phase de tâtonnement où nous, consommateurs, nous exprimons notre adhésion à autre chose, notre envie d'autre chose. Nous explorons quelquefois par nous-mêmes, je pense à la consommation collaborative, d'autres manières de consommer. Et les acteurs de l'offre en face sont en train d'essayer d'explorer des nouveaux modèles économiques, pas écrits, pas simples, mais c'est un enjeu majeur. Nous avons la consommation est l'aboutissement du circuit économique, donc nous avons besoin de consommation et sans doute de la croissance de la consommation. Mais l'enjeu est d'arriver à réduire son impact environnemental, à dématérialiser la valeur que consomment les consommateurs. Le défi est colossal et c'est vrai que le Black Friday, ça sonne un peu vieille France, quoi. Ça sonne vieille recette du commerce, on va stimuler les ventes par de la promo, c'est vrai qu'il faut qu'on en sorte, quoi.
Merci Philippe Moati, co-président, je le rappelle, de l'Observatoire Société et Consommation d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Anne-Laure Jumet. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi agité de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie jusqu'au Massif Central et le sud de la Loire. Sur le reste du pays, le ciel sera généralement variable, alternant éclaircies et passages nuageux. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.